Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
I was grateful for everything that the team has been through. You know, we face a lot of challenges. But you know, the people of South Africa have gotten behind us, and we are so grateful for the people of South Africa. And you know, we have so many problems in our country, but to have a team like this, we know we come from different backgrounds, different races, and we came together with one goal and we wanted to achieve it. I really hope that we've done that for South Africa to show that we can pull together if we want to work and we achieve something.
Voilà la réaction du capitaine des Springboks, Siya Kolisi, après leur victoire en finale de la Coupe du Monde de rugby contre l'Angleterre, 32-12, c'était hier à Yokohama au Japon. Et maintenant le point avec Cédric de Oliveira, sur place pour Radio France Internationale. Il est interrogé par Olivier Pron qui lui se trouve à Paris.
Éclatante démonstration des Springboks qui ont vraiment maîtrisé ce duel qu'on annonçait très âpre, très disputé. Eh bien ça l'a été, il y a eu beaucoup de dureté dans les impacts. Et à ce jeu-là, eh bien c'est l'Afrique du Sud qui a lentement pris le dessus grâce à son pack d'avant surpuissant, domination aussi en mêlée, ce qui a permis eh bien de mettre la pression sur les Anglais, beaucoup trop pénalisés. Et le numéro 10 sud-africain André Pollard en a profité, 4 pénalités pour lui lors de la première période, seulement 2 pour son rival anglais Owen Farrell. Ça faisait donc 12-6 déjà à la pause, avant que la supériorité sud-africaine ne soit encore plus criante en seconde période et concrétisée par 2 essais des ailiers Makazole Mapimpi et Cheslin Kolbi qui ont parachevé le succès des Boks 32-12. Et à l'arrivée, ce sont eux qui raflent la mise finalement, des Boks qui étaient au fond du trou il y a encore 18 mois, et l'arrivée de Rassier Erasmus, le sélectionneur qui a su redonner un esprit de corps aux Sud-Africains qui sont montés en puissance depuis, en remportant notamment le Rugby Championship cet été, l'équivalent du tournoi des 6 nations dans l'hémisphère sud. L'Afrique du Sud qui a même perdu son premier match de compétition en poule face aux All Blacks 23-13, mais c'est peut-être ce qui leur a permis d'être sacrés aujourd'hui.
C'était ma première Coupe du Monde en tant qu'entraîneur et le premier match face aux All Blacks et la pression du premier match a été très dur à gérer pour nous. Ça a été très compliqué dans la semaine précédant la rencontre. On était très tendus et ça nous a sans doute servi ensuite dans la manière d'aborder la phase finale des quarts jusqu'à cette finale. Mais cette pression, c'est plutôt un privilège.
Rassier Erasmus, qui est aussi l'homme qui a nommé Siya Kolisi, le troisième ligne, comme capitaine des Springboks. Pas anodin comme choix, Kolisi qui a grandi dans un township de Port-Elizabeth et le premier capitaine noir d'une équipe, on le rappelle, qui était le symbole de l'ancienne apartheid. Les Noirs n'avaient pas leur place à l'époque chez les Boks. Cette fois, ils étaient 6 titulaires sur la pelouse. Alors souvenez-vous l'impact de la victoire de l'Afrique du Sud en 1995 et de ce cliché célèbre de François Pinard et Nelson Mandela. Eh bien, on se souviendra aussi longtemps de Siya Kolisi brandissant le trophée Webb Ellis.
On écoute maintenant la déception du coach des Anglais, Eddie Jones, qui d'ailleurs est australien.
Je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas trop pourquoi on n'a pas bien joué aujourd'hui, mais ça arrive dans les matchs de rugby de haut niveau. On a cru que notre préparation de la finale cette semaine avait été bonne, mais visiblement ça n'a pas été le cas, parce qu'on n'a pas bien joué. On est extrêmement déçus, mais en même temps j'ai beaucoup d'admiration pour ce que les joueurs ont fait. Je ne peux pas dire à quel point j'ai du respect pour eux, à quel point ils ont bien travaillé, mais on a été trop court aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas à cause d'un manque d'effort de notre part.
Eddie Jones, dont c'est le deuxième échec en finale après celui infligé en 2003 par les Anglais, justement, lorsqu'il entraînait l'Australie. La seule victoire anglaise en Coupe du Monde, puisque c'est la seule que le 15 de la Rose a obtenue en 4 finales. Les Anglais qui donnent maintenant rendez-vous en 2023 en France.
En Australie donc, la campagne est lancée pour ramener Eddie Jones comme coach des Wallabies 14 ans après sa révocation par Rugby Australia. Affaire à suivre. On passe au tennis avec les Masters 1000 de Paris avec la finale Djokovic contre Shapovalov ce dimanche. Shapovalov, le Canadien, après le forfait de Rafael Nadal, blessé. Éric Mamrut, Radio France Internationale.
Un forfait qui a surpris tout le monde, y compris Denis Shapovalov lui-même. Le jeune Canadien était en train de se préparer dans les vestiaires tranquillement. Avant que l'annonce ne tombe, Rafael Nadal ne peut pas jouer en raison d'une blessure aux abdominaux. L'Espagnol est venu le raconter dans la foulée à la presse. En fait, c'est sur l'un de ses derniers services, lors de son entraînement du matin, qu'il a senti une douleur. Un test sur le court l'après-midi, puis l'échographie réalisée immédiatement ont confirmé la blessure. Peut-être pas très grave. D'autres examens le détermineront demain, mais suffisante pour l'empêcher de jouer sa demi-finale contre Shapovalov. Raphaël Nadal, qui espère être rétabli d'ici le Masters de Londres, qui débute dans 8 jours, un tournoi londonien réunissant les 8 meilleurs joueurs du monde, d'autant plus important cette année qu'il va décider de qui terminera numéro 1 mondial en 2019, soit Nadal, soit Djokovic. Les deux hommes sont actuellement au coude à coude au classement.
On écoute maintenant la réaction de Guy Forget, directeur du tournoi, qui aurait voulu voir une finale Djokovic contre Nadal.
On a vu un très très bon Raphaël Nadal depuis le début du tournoi. Il est arrivé tôt pour se préparer ici. Et puis bon, malheureusement, il m'a appelé pour me dire que voilà, il avait fait une dernière échographie avec un test juste avant encore un quart d'heure avant de rentrer sur le terrain et que voilà, il n'arrive pas à servir. Donc on est triste pour lui et parce que s'il y avait peut-être une année où il pouvait aller au bout, peut-être, c'était cette année. Donc ce ne sera que partie remise et on espère bien que ce ne sera pas trop sérieux pour la suite de sa saison s'il arrive à la terminer. Je l'ai rarement vu jouer aussi bien en indoor, donc voilà, on avait envie de le voir peut-être en finale contre Novak Djokovic, qui est numéro 1 mondial, même s'ils risquent de faire un chassé croisé la semaine prochaine. Mais c'était vraiment, ça aurait pu être en gros la finale de rêve. Donc on va avoir une finale extraordinaire, bien entendu avec le numéro 1 mondial contre la nouvelle génération Shapovalov, mais on aurait bien aimé voir Rafa un petit peu plus longtemps.
Novak Djokovic est donc en bonne et pleine forme, comme l'explique Eric Mamrut pour Radio France Internationale.
Bah, il était patraque en début de semaine avec un gros rhume. On a ainsi eu droit au fantôme de Djoko lors de ses deux premiers matchs contre Mute Edmund. Mais en quart de finale, puis aujourd'hui en demi, on a retrouvé la machine serbe. 6-1-6-2 hier contre Tsitsipas, 7-6-6-4 aujourd'hui contre un très bon Grigor Dimitrov, le Serbe qui toutefois a dû s'employer pour venir à bout du Bulgare, numéro 3 mondial, il y a 2 ans, Novak Djokovic.
Je pense que le match était vraiment égal. Le premier match, peut-être lui était le meilleur joueur sur le court, mais j'étais concentré jusqu'à la dernière coupe et c'était vraiment important de gagner le premier match. Après, je pense que le niveau de tennis s'est élevé un peu pour moi.
Djokovic qui va viser son 5e titre ici à Bercy, le Serbe qui avait été battu l'an dernier en finale et à la surprise générale par un autre membre de la nouvelle génération, tiens, c'était le Russe Karen Khachanov, donc qui sait.
Et puis à noter que la paire française, Mahut-Herbert, est en finale de ses Masters de Paris ce dimanche pour la deuxième fois après celle de 2016. Chez les dames, l'Australienne Ash Barty s'est qualifiée pour la finale des Masters à Shenzhen en battant Karolina Pliskova en 3 manches, 4-6, 6-2 et 6-3. Elle affrontera Elina Svitolina, numéro 8 mondial, qui a battu la Suissesse Belinda Bencic, qui a dû se retirer, blessée. Elle était menée 5-7, 6-3 et 4-1. La dernière Australienne a remporté le trophée des Masters, Yvonne Goolagong-Cawley, et c'était en 1974 et 1976. Ash Barty, si elle gagne cette finale, pourrait empocher 6,4 millions de dollars. On passe au foot, la Ligue 1 en France et le point avec Loïc Bussière pour Radio France Internationale.
La victoire de l'Olympique de Marseille sur l'île de Buzyn, celle de l'autre Olympique, l'Olympique lyonnais qui s'impose 3-2 sur la pelouse de Toulouse. Victoire également pour Amiens et Angers, match nul 2-2 pour Metz et Montpellier. Suite et fin de cette 12e journée de dimanche avec Bordeaux, Nantes, Nice, Reims et Saint-Étienne, Monaco.
Et un mot sur le championnat de la Premier League en Angleterre avec Olivier Pron, RFI.
En Angleterre, victoire sur le fil du leader Liverpool 2-1 à Aston Villa. Grâce à qui ? À Sadio Mané, bien sûr, à la 94e minute. Toujours 6 longueurs d'avance sur Manchester City, vainqueur sur le même score de Southampton. 3e pour le moment, Chelsea 2-1 aussi à Watford. Arsenal 1-1 face à Wolverhampton et loin, 5e. Manchester United, encore plus loin, battu à Bournemouth. Les Red Devils 1-0 sont 10e.
Et enfin, la A-League en Australie. Vendredi, la victoire de Sydney contre Newcastle, 4-1. Hier, Brisbane et Western Sydney Wanderers ont fait match nul, 0-0. Et puis, la victoire de Western United qui a battu Melbourne Victory, 3-2.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.